7h40, c'est le matin, vous êtes devant votre miroir, vous vous apprêtez à poser ou à rectifier votre maquillage pour la journée. Eh bien, un conseil, posez le pinceau un instant, il se pourrait bien que vos produits contiennent plusieurs substances nocives.
Deux recherches dénoncent la présence de perturbateurs endocriniens dans tout un tas de cosmétiques. Nous sommes avec Isabelle Pasquier qui vient de publier un article à ce sujet pour la Fédération romande des consommateurs. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien et qu'est-ce que ça fait comme effet ?
Alors un perturbateur endocrinien, c'est une molécule chimique qui ressemble un petit peu à une hormone naturelle. Alors déjà, peut-être une hormone, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Donc pour simplifier, une hormone, c'est un messager dans notre corps. Et le problème, c'est que le perturbateur endocrinien, il peut modifier les messages qui sont transmis dans notre corps. Et c'est ça qui est susceptible d'avoir des effets indésirables ou néfastes sur notre santé.
Donc ça entre par le rouge à lèvres, on pose du rouge à lèvres, et puis là, il peut y avoir ces perturbateurs.
Exactement. Il peut y avoir des substances qui sont utilisées à titre, de, par exemple, de conservateur, mm-hmm. Et puis que vous mettez directement sur vos lèvres. Et puis, ben, dans le cas du rouge à lèvres, ben, vous imaginez qu'assez facilement, vous le léchez, donc ça peut rentrer par ce biais-là. Ou les crèmes solaires, les corporelles, ça peut aussi franchir la barrière cutanée et rentrer par ce biais-là dans votre corps.
Dans votre article intitulé « Alerte dans la salle de bain », vous citez des études des instituts français Notéo et Réseau Environnement Santé. Quels sont les chiffres qu'elles révèlent, ces études ?
Alors, cette étude a montré que 40% des cosmétiques présents et vendus en France contiennent un à plusieurs perturbateurs endocriniens. L'analyse, elle est extrêmement large puisqu'ils ont gardé des compositions de 15 000 produits et c'est sur cette base-là qu'ils ont pu dire qu'il y a 40% des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc d'un côté, 40%, c'est inquiétant, puis d'un autre côté, ça montre qu'il y a des alternatives. Et c'est dans ce sens-là que tout notre message a un sens, c'est de dire que on a les moyens d'agir puisqu'il y a des produits qui n'en contiennent pas.
Alors les études, elles étaient basées sur des données de fabricants et elles n'avaient pas été corroborées par des tests en laboratoire, mais on peut quand même en tirer des conclusions, comme quoi par exemple ?
Eh bien, ça montre une bonne situation du marché. Alors nous, on dit qu'effectivement, la méthode, elle n'est pas tout à fait la même que l'étude qu'on a menée, nous, au début de l'année, dans laquelle on s'est contenté de 66 produits, mais pour lesquels on a vraiment mené une étude en laboratoire pour vérifier les compositions. Eux, sur 15 000 produits, clairement, ils n'ont pas pu avoir cette même approche. Ils se sont basés sur les compositions qui sont déclarés par les fabricants, et puis on voit qu'il y a parfois des différences entre ce qui est déclaré, ce qui est présent sur les bases de données, et puis ce qui est effectivement dans les produits. Mais disons, l'image que ça donne de 40%, je pense qu'elle est elle est juste, elle est dans le même ordre de grandeur ce que nous, on a trouvé avec nos analyses plus précises.
Alors 40%, vous l'avez dit, hein. Pourquoi finalement continuer à mettre ces produits ces perturbateurs endocriniens, ces substances qui peuvent perturber la santé, alors que 60% n'en mettent pas? C'est quoi l'avantage d'en avoir dans ces produits?
Alors, c'est des produits qui sont utilisés à plusieurs titres. Il y a la question de conservateurs, il y a des filtres UV, et puis il y a aussi des antibactériens. Alors, disons, si vous voulez, l'association suisse, par exemple, des fabricants de cosmétiques, elle continue de dire que ces substances sont autorisées, qu'il n'y a pas d'effet néfaste pour la santé qui a pu être prouvé, et donc, en tant que tel, eux ne voient pas l'intérêt de les bannir. Par contre, d'autres études montrent, et même l'OMS a aussi publié récemment une prise de position dans laquelle elle dénonce le risque pour la santé. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence d'approche. D'un côté, vous avez les fabricants qui se basent sur ce qui a été décrit au niveau de la législation, qui est l'analyse d'une substance par substance, et de dire, voilà, on utilise très peu de cette substance, mais en fait, il n'y a pas de problème. Ce que nous, on a montré dans notre étude, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Les gens n'utilisent pas un seul produit, ils utilisent toute une série. Vous avez le gel douche, vous avez le shampoing, vous avez le lait pour le corps, vous avez le maquillage, le fond de teint, le vernis. Et tout ça, ça s'accumule. Et donc, c'est ce qu'on a démontré comme un effet cocktail. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste une petite substance comme la législation le prévoit, mais vous avez toute une série de substances qui vont avoir un effet combiné.
Et puis, c'est des effets-là qui sont mal connus.
Souvent, dans ces effets-là, ils ne s'additionnent pas, mais ils ont tendance plutôt à se multiplier. C'est aussi ça le problème.
Oui, mais c'est ça qui n'est pas connu, en fait. C'est le cumul de tous ces effets. Et puis, on a montré qu'une personne utilise quand même entre 70 et 100 grammes de cosmétiques par jour. Donc, c'est quand même des substances assez importantes. Et puis, c'est donc une exposition qui est quotidienne et multiple.
Ces produits, ils sont notés
sur, oui,
pardon,
ils sont notés.
Ces substances,
alors, effectivement,
on peut les connaître, c'est noté.
C'est noté, c'est présent dans la liste de composition. Par contre, ce qui est assez difficile, c'est que c'est toute une famille de produits. Et donc, on ne peut pas vous dire, voilà, faites attention à ce produit-là, propylparabène par exemple, qui est un des produits qui est dénoncé, parce qu'il y en a plusieurs, il y a toute une famille de parabènes, et c'est donc hyper compliqué en tant que consommateur face à votre liste de composition. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé pour les ingrédients.
Et puis, il faut déjà la loupe.
C'est difficile.
Ouais, déjà la loupe.
C'est un langage qui n'est pas familier, quoi. C'est des substances chimiques, donc c'est assez compliqué. C'est
alors
dans
justement...
cette perspective-là que nous, on a fait une étude. En fait, on a contacté les 30 principales entreprises vendant des cosmétiques en Suisse, qui représentent plus de 100 marques, en leur demandant quels sont vos engagements par rapport à ça. Alors, ce qui permet, en fait, de simplifier, ça vous permet déjà de voir quels sont les fabricants qui les bannissent, quels sont les fabricants qui reconnaissent le problème et qui tentent de développer des formules sans, et quels sont les fabricants qui ignorent complètement le problème et qu'on continue de le langage comme quoi il n'y a pas de souci à utiliser des perturbateurs endocriniens.
En Suisse, la Fédération romande des consommateurs est en campagne pour faire bannir les perturbateurs endocriniens des cosmétiques. Où en est la campagne actuellement ?
Alors je dirais d'abord c'est un sujet que la FRC suit depuis longues années, et puis c'est vrai que vous avez, je pense, déjà entendu parler quand il y avait cette action dans les phtalates qui étaient dans les jouets, c'était déjà le domaine des perturbateurs endocriniens. Après il y avait eu le bisphénol A qui a été interdit dans les biberons, ça c'était aussi cette problématique des perturbateurs endocriniens. Le thème des cosmétiques, eh bien, on l'a plus pris en main depuis 2011, où on a commencé à faire une grande campagne d'abord dans le premier temps pour recenser quels étaient les produits qui contenait des perturbateurs endocriniens. Après, on a publié justement en 2013, donc au début de cette année, cette étude qui dénonçait cet effet cocktail et analysait quels étaient les produits, les familles, en fait, si vous voulez, de produits que l'on utilise qui sont plus problématiques. Et puis, on continue justement à dénoncer quand on voit des produits qui posent problème. On a, dans notre dernier journal, on a parlé d'un cas, d'une nouveauté chez Nivea, un produit de douche qui en même temps l'est pour le corps, mais qui contient 2 perturbateurs endocriniens et 8 allergènes. Hein, donc on dit vraiment, ça c'est pour nous pas une nouveauté intéressante. Et puis, on vient d'actualiser justement cette liste des fabricants, dans lesquels on a demandé aux fabricants de réactualiser, de redire quels étaient eux leur engagement par rapport à l'utilisation de perturbateurs endocriniens.
Est-ce que toutes les entreprises, parce que vous les avez donc interpellées, hein, tous ces fabricants, ils ont tous répondu déjà ?
Non, ils n'ont pas tous répondu. Non, il y en a qui ne répondent pas.
Donc ceux qui ne répondent pas,
par exemple,
on peut...
Pardon ? N'a pas répondu. Une marque comme Johnson & Johnson, par exemple, n'a pas répondu.
Est-ce qu'il y a des entreprises qui se distinguent dans les bonnes réponses ?
Oui, alors il y a une série de marques qui, depuis leur début, ont banni ces perturbateurs endocriniens. C'est vrai que c'est des marques avec des certifications écologiques. Ce serait le cas, par exemple, de Velleda ou de Logona, qui sont des marques qui, elles, n'utilisent pas ces produits.
Et chez les entreprises qui en auraient, est-ce qu'on voit quand même un effort ou des tentatives pour trouver d'autres solutions ?
C'est des marques, les produits de marques propres qui sont vendus chez Microcoop, par exemple, dans lesquels ils sont en train de supprimer les perturbateurs endocriniens. Donc on en trouve encore dans quelques produits, mais ils font un travail dans ce sens. Ils ont reconnu la crainte des consommatrices et consommateurs par rapport à ces substances et ils tentent progressivement de les supprimer.
Et puis, il y a Joël. Une association suisse des cosmétiques, elle existe. Je suppose que vous discutez aussi avec eux. Quel constat ils font, eux, à l'association suisse des cosmétiques ? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre le même chemin que vous et puis à entrer en campagne ?
Non, alors dans le communiqué de presse, dans la position qui est sur leur site internet, ils disent clairement que pour l'instant, eux ne reconnaissent, ne voient pas le danger. Le danger n'est pas avéré pour eux des perturbateurs endocriniens. Donc en tant que tel, ils ne voient pas l'intérêt d'agir. Mais on a des échos qu'au niveau européen, parce que cette étude que nous avons publiée au début de l'année, nous l'avons fait en partenariat avec les autres associations de consommateurs européennes pour qu'elle ait un impact plus important, parce que c'est clair qu'un lobby, ben, plus on est nombreux, plus on devient fort. Et cette étude qui dénonçait vraiment, montrait la problématique de ces doses multiples, de cet effet cocktail, elle a eu un impact. Et puis, il semble qu'en tout cas, au niveau des associations européennes de cosmétiques, la position est lentement en train d'être revue.
En tant que consommateur, pardon, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'éviter au maximum ces produits ? Est-ce qu'il y a des ingrédients typiques qu'on peut reconnaître ? On disait tout à l'heure, hein, parfois les ingrédients, on n'arrive pas tellement à comprendre ce que c'est quand c'est écrit sur les bouteilles. Mais est-ce qu'il y a des endroits où on peut se renseigner pour savoir ce qu'il faudrait éviter ?
Eh bien, je dirais que sur notre site internet, vous avez quand même déjà maintenant, justement, avec la déclaration de ces marques, et puis vous trouvez aussi les 17 molécules qu'on a identifiées comme étant plus problématiques. Mais c'est vrai que 17 molécules avec des noms compliqués, ça reste assez difficile. C'est pour ça qu'il nous semble que regarder par l'engagement des marques, c'est aussi une bonne solution. Mais c'est vrai qu'on a montré qu'il y avait certaines substances, comme les propylparabènes, qui étaient problématiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut regarder aussi. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'en fait, c'est surtout important pour les produits qu'on met sur le corps et qu'on ne rince pas. C'est-à-dire, c'est vrai que le gel douche, c'est problématique, et c'est problématique aussi parce que c'est des résidus qui vont se retrouver dans l'eau et donc dans l'environnement. Mais disons, sur votre corps, c'est quelque chose qui ne va pas rester. Le problème, il est plus au niveau des produits qui restent, et on a montré qu'ainsi, on a cette recommandation de dire vous ne devriez pas utiliser le même jour autant que possible une crème UV et un lait corporel qui contiendrait des perturbateurs endocriniens. Parce que ça vous ferait une double dose de perturbateurs sur votre organisme.
Alors Isabelle Pasquier, on va bientôt conclure peut-être avec une dernière bonne nouvelle, c'est que le prix des cosmétiques en Suisse est en train de baisser. Ça fait de combien environ ?
Alors effectivement, notre baromètre des prix que l'on mène depuis plusieurs années nous montre que les prix des cosmétiques sont très proches maintenant en Suisse du niveau européen. On a des prix comparables avec l'Autriche, l'Italie, une différence assez faible avec la France. Il n'y a que l'Allemagne avec laquelle la différence de prix reste importante, mais c'est vrai que les prix des cosmétiques en Suisse deviennent assez proches du niveau des prix européens.
Et ben une fois qu'ils seront moins chers, et puis en plus sans aucun perturbateur endocrinien, on recommencera à se maquiller. Ça vous va?
On fait comme ça. Alors merci beaucoup Isabelle Pasquier d'avoir été avec nous ce matin. On va donc mettre toutes les informations que vous nous avez données sur le blog de Format A3.